Aubin.
Du débat dans ce journal du côté de Tonga, de la Chine et de Taïwan, du côté aussi du gouvernement et de ses services. On ira aussi à Rangiroa et on vous parlera même du pape, ce sera en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On reparle pour commencer de ce débat à la DJS.
Et oui, la direction de la jeunesse et des sports qui, vous le savez désormais, doit être scindée en deux entités d'ici le début d'année prochaine. Les sports d'un côté, la jeunesse de l'autre, avec la DPDJ qui serait au passage absorbée dans la nouvelle direction. Hier, la parole était aux syndicats de la fonction publique et notamment à la CSTPFO qui dénonce un projet incohérent, potentiellement coûteux et dont les bénéfices ne sont pas établis par la ministre Nathalie. On passe le micro ce matin du côté des associations, elles aussi concernées par le changement, et leur discours est beaucoup plus arrangeant pour les plans du ministère. L'UPJ, l'Union Polynésienne pour la Jeunesse, qui regroupe une grande partie des associations de jeunesse du Fénois, se positionne de manière claire et positive à l'égard de cette réforme. Pour sa présidente, cette restructuration est une opportunité qui va permettre de mettre enfin en œuvre une vraie politique en faveur des moins de 25 ans. Écoutez.
C'est une bonne initiative de la part de notre ministre. Ce ne sont pas que des paroles, ce sont des actes. On voit bien qu'il y a un intérêt de sa part et de porter vraiment la réussite, le bien-être, le social, la santé le sport aussi. Il fait partie du schéma directeur que nous allons compiler aujourd'hui.
Voilà, Patricia Teritera Homea, présidente de l'UPJ. Elle précise aussi que ce projet est attendu depuis de nombreuses années par le mouvement associatif qui se réjouit d'être enfin impliqué dans le processus décisionnel. Un avis également partagé par le président de la Fédération sportive et culturelle de France, une association chargée d'organiser les centres de vacances et de former les animateurs. Écoutez.
Nous étions informés par voie de courrier que voilà les nouveaux textes qui sont applicables nous concernant. Mais comment ils ont été pensés? C'est la question que l'on se pose. Qui est à même d'apporter une vision claire et honnête de ce qui se passe dans les familles? Ce sont les associations de jeunesse. Au-delà des paroles, il y a des projets qui sont pendus, qui sont proposés au pays pour améliorer la qualité de vie de nos jeunes. Et il y a du concret sur le terrain. On est en relation quotidienne avec eux.
Voilà, Teariki Nahiti au micro de Vaitiar et Pereire. Du côté du ministère, qui au hasard du calendrier réunissait ce matin le monde associatif pour la 4e commission de cadrage du schéma directeur de la jeunesse, on insiste sur le fait qu'une toute petite partie des salariés de la DJS sont réfractaires au projet. Je cite, le cabinet veut les rassurer et affirme que contrairement à ce qui se dit dans les couloirs de la DJS, les décisions seront prises en concertation avec les agents.
Des décisions à prendre aussi pour Cédric Mercadal, qui était d'ailleurs sur notre plateau hier.
Et oui, on vous a parlé de la réaction du ministre de la Santé concernant les conditions d'accueil des patients en psychiatrie au CHPF, mais le ministre a aussi parlé des réformes en cours dans son secteur. Elles sont nombreuses. Premier gros dossier sur son bureau, celui de la réorganisation générale du secteur. 2025 doit être l'année du grand chambardement, avec notamment la création du statut d'établissement public de santé. Écoutez.
L'EPS est une des solutions. L'établissement public de santé permettra de faire des CDI, des conventions d'entreprise au sein des hôpitaux, et permettra de créer une fonction publique hospitalière en réalité et se détacher de la fonction publique en général. Il nous permettra d'avoir beaucoup plus de modularité et d'acceptation pour se mettre au niveau de l'attractivité qui existe dans les autres territoires.
De l'attractivité et de la souplesse pour la gestion du personnel et des investissements. En revanche, le ministre demande plus de rigueur sur l'octroi des carnets rouges. Le projet de texte en ce sens a déjà été examiné par le CESEC. Il reste à être voté pour l'Assemblée. L'idée générale, ne plus accorder ces reconnaissances de longue maladie pour des raisons sociales, mais seulement pour des raisons médicales.
Beaucoup de carnets sont donnés pour de vraies maladies. Par contre, les délais pour lesquels ils sont donnés, des fois, vont au-delà même des délais médicaux nécessaires. Donc il faut aussi réguler ça. Après, la décision médicale, elle est importante pour moi, mais il ne faut pas aussi arriver à des carnets rouges, comme certains médecins le disent, qui sont aussi pour des raisons sociales, parce que les gens ne peuvent pas payer leurs 30% à charge. Et je pense que c'est la solidarité qui doit venir aider à ce complément. Et d'ailleurs, il y a des aides qui existent au niveau de la CPS sur ce domaine-là.
Voilà, alors parallèlement, plusieurs chantiers sont menés, dont le nouveau pôle public-privé de Taravao qui permettra de créer une maternité, un chantier aussi du côté du Taonais avec la réhabilitation de la rotonde pour accueillir le service d'oncologie et l'Institut du cancer d'ici 2027. Et puis il y a aussi les travaux de fond, bien sûr, sur la réforme et le cadrage des longues maladies notamment, et sur la réforme de la CPS aussi. Pas de fusion, pas tout de suite en tout cas pour les trois régimes de la caisse, mais des travaux en cours pour remettre les gens dans les bonnes cases. Écoutez.
Il y a des gens qui sont RSPF alors qu'ils sont salariés, il y a des gens qui devraient être au RNS et qui sont salariés. salariés, il y a des gens qui sont au RSPF qui pourraient être au RNS en étant en activité. Il y a de la multi-activité partout. Moi, ce que je vais proposer, c'est de remettre les gens dans les bonnes cases. Déjà, que les gens qui auront une activité seront au RNS dès lors que ce n'est pas une activité salariée, qu'ils soient agriculteurs, pêcheurs et autres.
Voilà, l'idée du gouvernement, c'est aussi de collecter les cotisations sur toutes les activités, y compris les activités des patentés menées à côté de leur travail de salarié. Cela concernerait 9000 affiliés du RGS et cela permettrait de récupérer 2 à 3 milliards de francs dans les caisses de la CPS.
On parle de ce fait divers tragique à Ranguiroa, Charlie.
Et oui, un accident mortel d'un sexagénaire qui attendait mercredi midi sur les quais d'Avatoru une commande de carrelage qui devait être livrée par le Dory. La goélette avait déjà déchargé sa marchandise, mais la commande du grand-père, elle n'y était pas. Il a donc décidé de monter à bord pour la trouver et serait tombé, d'après Polynésie la Première, dans la cale du bateau. Une chute de 3 à 4 mètres et des blessures importantes. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu, nous apprend la chaîne. La gendarmerie a ouvert une enquête, bien sûr. Elle a inspecté le Dory qui a fini par reprendre sa tournée des Tuamotu direction Mani.
Et puis dans l'actualité régionale, ces tensions de fin de sommet à Tonga.
Et oui, le sommet du Forum des îles du Pacifique dont vous parlez en début de semaine. Ces deux derniers jours, les dirigeants de la région, dont Muete et Brotherson, étaient en retraite sur une petite île de l'archipel et le rendez-vous s'est terminé par un communiqué final du sommet. Un communiqué qui a provoqué la colère de la Chine. En effet, les pays du FIP y affirment qu'ils continueront à entretenir des relations avec Taïwan, une île où se sont installé en 1949 les opposants au Parti communiste chinois et qui est devenu un État démocratique souverain alors que Pékin la considère comme son territoire. Alors forcément, la mention même de Taïwan dans le communiqué a hérissé le poil de l'ambassadeur chinois pour le Pacifique. Ça ne peut être qu'une erreur, a expliqué Chan Bo, qui s'est empressé de se plaindre aux responsables du FIP et notamment à son secrétaire général Baron Waka. L'envoyé de Pékin rappelle que sur les 18 membres du FIP, 15 ont des relations diplomatiques avec la Chine et pas avec Taïwan, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années à force de pression et de promesses de financement. Dans le centre de congrès de Nuku'alofa, qui a justement été offert par Pékin pour 25 millions de dollars, l'ambassadeur chinois a visiblement été entendu. Le communiqué du FIP n'était plus disponible ce monsieur matin sur les sites officiels, peut-être en attente d'une correction diplomatique.
Et après ce FIP, un autre invité en Océanie.
Et oui, un invité plutôt prestigieux puisqu'il s'agit du pape François qui est attendu début septembre entre l'Asie du Sud et le Pacifique, Indonésie, Timor oriental, Singapour, Papouasie, 32 000 km de vol, une quinzaine de discours, des messes géantes, mais pas de détour par la Polynésie. C'est dommage, on l'aurait invité en invité de la rédaction ici. Ce voyage est déjà en soi un défi pour le pape François, qui est touché par de nombreux problèmes de santé et qui se déplace ces derniers temps avec une canne et même plus souvent un fauteuil roulant.
On finit par du sport avec les ambitions d'une fédération.
Oui, celle de kayak surf ski, une discipline de rame bien moins populaire que le va au Fénois, mais qui est bien décidée à se faire connaître au niveau local et reconnaître à l'international. Et pour ça, il faut des compétitions. Il y en a justement une samedi du côté de Teahupo, la Teahito Surf Ski qui fête sa deuxième édition. 40 rameurs sont attendus pour cette épreuve de 24 km. Parmi eux, des champions locaux bien sûr, mais aussi des étrangers comme l'ancienne championne du monde néo-zélandaise Danielle McKenzie, ainsi qu'un jeune français de 24 ans, champion d'Europe en titre d'Ocean Racing, Hector Henault vient de devenir conseiller technique de la Fédération Polynésienne. Il va donc rester au Fénois. Il a du travail, il s'agit de faire grimper le nombre de licenciés de 200 à 500 d'ici 2 ans, de monter des équipes compétitives sur le plan international, de multiplier les événements et de diversifier les épreuves en local. Autant d'efforts et d'objectifs qui s'inscrivent dans un calendrier très dense pour le kayak surf ski au Fénois. Écoutez.
Les grandes échéances, ça va être l'Océania Kayak en 2026 et les Jeux du Pacifique en 2027 au mois de juillet. Et un mois après, les Championnats du Monde 2027, ça sera entre août et septembre.
Roland Barthes, le président de cette fédération de kayak surf ski, dont vous pouvez retrouver l'interview sur radio1.pf. La Teahito Surf Ski, c'est ce samedi à partir de 9h à Teahupo pour ceux qui voudraient découvrir cette discipline assez impressionnante, il faut le dire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve, ou en tout cas vous retrouvez mes collègues de la rédaction, à 16h. Ce sera pour le Flash.
Merci beaucoup Charlie. On passe à la météo sur Radio.